Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h juste, et sur Internet, radiocapi.net.
Encore une fois, ravi de vous retrouver dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Aujourd'hui, nous parlons de la couverture sanitaire universelle. Vous savez, le gouvernement congolais a lancé le vendredi dernier un plan de couverture sanitaire universelle. Ceci pour permettre à l'ensemble de la population d'avoir accès aux services de promotion de la santé, des préventions des maladies et des traitements. Par manque des ressources disponibles, le gouvernement compte y aller étape par étape. En outre, la priorité sera donnée à la prise en charge de la mère et de l'enfant, la lutte contre les maladies infectieuses et l'éradication de la malnutrition. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour concrétiser ce projet? Eh bien, on en parle dans cette émission aujourd'hui avec Patrick Njadi Ombombo. Il est administrateur du Centre de recherche sur l'assurance maladie universelle, CRAMU en sigle. Patrick Njadi, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Keshama.
Alors, quand on parle de la couverture sanitaire universelle, de quoi s'agit-il?
Quand on parle de la couverture sanitaire universelle, on parle de protection financière. Donc, c'est-à-dire protéger financièrement les personnes pour que quand les personnes font face à des maladies, ils ne puissent pas se retrouver dans une situation d'appauvrissement. Donc, le but vraiment de cette protection financière, c'est que les gens évitent l'appauvrissement et en plus de ça, que ces gens-là puissent bénéficier de soins de qualité. Mais l'élément central, l'élément important, c'est vraiment une protection financière. Parce que quand on est protégé financièrement par rapport à la maladie ou aux soins de santé, ça évite l'appauvrissement. Donc, moi, je préfère plutôt parler de protection financière.
Une protection financière. Oui. Or, pour être protégé financièrement, il faut souscrire à une assurance.
Oui, pour être protégé financièrement, souscrire à une assurance, c'est une possibilité. C'est une des possibilités pour être protégé financièrement. Maintenant, quand vous parlez d'assurance, vous pouvez avoir des assurances privées qui vous proposent quelque chose, ils vous disent de vous assurer. Et vous pouvez avoir l'État qui peut mettre des moyens, des possibilités pour avoir des formes d'assurance, des formes de garanties financières. Donc, par exemple, dans le pays où moi je travaille, en Belgique, on a des mutualités. Des mutualités, ce sont des assurances qui sont financées par les travailleurs, donc les employeurs et les employés. Et les personnes qui sont des indépendants, qui financent, qui cotisent à l'État, et l'État donne aux mutualités l'argent pour pouvoir assurer les personnes. Ici au Congo, il est important de relever un point que je trouve important. Quand on parle souvent de mutualité au Congo, moi je viens des Lingala, il y a souvent un amalgame. Les gens en RDC, quand on parle de mutualité, ils voient ça comme quelque chose de gratuit, des, je dirais en Lingala, lissalissi. Donc, on fait une mutuelle, on va faire des dons.
Voilà. Alors que les gens vont avoir des soins gratuitement.
Ils vont avoir des soins gratuitement. Il y a un élément important que les gens, je crois qu'il faut faire des campagnes de sensibilisation par rapport à ça, éduquer nos populations pour leur dire que une mutualité, c'est une forme d'assurance. Vous devez cotiser, payer quelque chose, mais l'État va accompagner ces assurances-là. L'État va payer, ajouter un montant pour avoir une forme d'assurance et de protection financière. Donc ça, c'est une forme d'assurance. Et vous pouvez avoir des assurances privées. Les gens qui ont des moyens, maintenant, on a libéralisé les assurances. Donc, on peut, les gens qui ont des moyens, souscrire à des assurances privées pour s'assurer contre les maladies.
Alors, vous avez pris part à cette rencontre des deux jours qui a eu lieu ici à Kinshasa par rapport à la couverture sanitaire universelle. C'était une conférence internationale. Il y a eu même les responsables de l'OMS qui ont participé à cette rencontre. Alors, à l'issue de cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut retenir? On a suivi, le gouvernement a lancé un plan, mais les moyens font défaut.
Les moyens font défaut, mais il est important d'encourager d'abord ce que le gouvernement fait. Parce que moi, je crois qu'on doit tous regarder vers la couverture universelle. La couverture universelle, c'est, moi, je suis convaincu, c'est vraiment le chemin, c'est quelque chose qui va nous permettre de réduire la pauvreté.
Permettre à tout citoyen congolais d'avoir
une protection financière.
Oui.
Et c'est par rapport aux soins de santé. Et si on regarde maintenant aujourd'hui le budget national de la RDC. Le budget national, quand on a publié les budgets, c'était de 5,6%, qui représentait 560 millions sur une prévision budgétaire de 10 milliards. Lors du congrès, le gouvernement a apporté un rectificatif en disant le budget est maintenant de 9,9% parce que...
Le budget consacré à la santé.
À la santé. Oui. Ils ont adapté les choses. Mais malgré ce montant-là, ce montant-là n'est pas suffisant pour le grand chantier qui est la couverture universelle. Mais cela ne doit pas nous décourager. La conférence était faire un état des lieux de la situation. Il y a un plan stratégique qui est déjà mis sur pied. Les recommandations qui sont sorties de cette conférence-là vont être ajoutées au plan stratégique pour la mise en œuvre de cette couverture. Le vice-ministre qui a clôturé la conférence, son Excellence Albert Petit, a pris un engagement solennel devant tout le monde en disant que les recommandations qui sont sorties de cette conférence-là, le gouvernement va faire un effort pour pouvoir les appliquer. Je suis d'accord avec toi quand on regarde ces montants-là et le nombre de personnes à couvrir. Moi, en tant qu'expert, par exemple, maintenant je vais vraiment prendre l'étiquette en tant qu'expert, quand je regarde de manière neutre, on peut se dire qu'on n'a pas assez de moyens pour couvrir tout le monde. Mais il est important de commencer quelque chose parce que la couverture universelle, c'est d'abord un choix politique. C'est-à-dire, il faut décider d'abord de commencer à faire quelque chose pour nos populations. Ça, c'est l'engagement que le gouvernement a pris.
Gouvernement a dit la priorité, c'est d'abord la prise en charge de la mère et de l'enfant, oui. La lutte contre les maladies infectieuses et l'éradication de la malnutrition.
Oui, ça c'est une... Ça, on va rentrer... Ça, c'est vraiment déjà rentré dans les détails et des formes d'assurance. Il y a un élément important. Vous savez... il y a au niveau législatif, il y a quelque chose d'important qu'on doit faire. C'est définir clairement la couverture universelle et dire que c'est obligatoire pour tout le monde. On ne va pas les lancer comme ça. Ça, ce sont des priorités au niveau de l'application, de la façon dont on va faire cette couverture-là. Il y a d'abord des prérequis qui vont être faits d'abord avant qu'on arrive aux choses auxquelles vous avez fait allusion tantôt. Donc, on va d'abord, au niveau juridique, mettre une loi sur pied et voter pour rendre d'abord cette couverture-là obligatoire à tout le monde. Oui. Et on va les faire en étapes, en fonction des priorités. Il y a eu quelque chose qui est ressorti de cette conférence-là qui est important. C'est que le Sénégal, par exemple, la personne qui a présenté les cas du Sénégal.
Du Sénégal.
Comment ça se passe là-bas au Sénégal? Ils ont lancé leur couverture universelle. Mais il y a un élément important que moi j'ai retenu et que j'ai fait part aujourd'hui parce que je sors d'une rencontre avec le vice-ministre. J'ai fait part de cette question-là, des gratuités des soins des enfants de 0 à 5 ans, par exemple. Et c'était aussi une idée qu'on envisageait en RDC.
On parlait aussi, les mamans pouvaient aller accoucher gratuitement. L'accouchement gratuit.
Sénégal, la personne du Sénégal a dit clairement à la tribune que pour eux, ils ne nous conseillent pas de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils s'est dit, ils ont un déficit pour le moment. Ils ont lancé cette couverture-là. Parce que quand vous lancez des 0 à 5 ans, il y a des enfants qui sont déjà des ayants droit d'autres personnes. Il y a des ayants droit. Par exemple, si vous avez une assurance maladie aujourd'hui, vous êtes couvert. Et qu'on dit, il y a gratuité des soins pour vos enfants. Donc ces enfants-là, est-ce que vous avez utilisé votre assurance ou vous allez les envoyer pour utiliser l'assurance que l'État décrète de manière gratuite. Donc ça c'était un élément que le gars a évoqué. Moi j'ai suivi ça. Maintenant je vais même essayer de fouiner encore dans le cadre de ma recherche pour voir exactement qu'est-ce qui se passe du côté du Sénégal. En tout cas, les conseillers nous ont conseillé de ne pas nous lancer directement dans cette optique-là. Et c'est un cas qu'on doit analyser.
Par exemple, ne pas permettre à toutes les mamans d'accoucher gratuitement aujourd'hui, c'est pas encore...
Parce que, vous savez, les mots gratuits auxquels vous faites allusion souvent, gratuité, il faut faire gaffe avec ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je fais souvent de l'associatif. Quand on parle de gratuit, c'est-à-dire l'État paye. Hein. Gratuit, l'État paye, les soins de santé ont un coût. Moi, je ne suis pas de ceux personnels, ça c'est mon avis personnel, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut faire des choses gratuites, bien que l'État va payer. Pourquoi? Parce que la santé, c'est d'abord la responsabilité de l'État, mais c'est la responsabilité de toi et de moi. Moi je suis de ceux qui croient que même une personne qui gagne 1000 francs, il doit payer même 20 francs ou 50 francs pour la santé.
Au sein d'une mutuelle des santé.
Ça peut être une mutuelle, ça peut être une structure étatique. Une mutualité n'est qu'une forme. Parce que je vois les gens se focaliser
sur les mutuelles de santé.
Oui,
alors qu'il y a plusieurs formes.
La Belgique a adopté sa forme de mutualité. D'assurance, il a appelé sa mutualité. Si vous allez en Angleterre, ils n'ont pas de mutualité. Si vous avez en France, c'est les caisses... on appelle ça les CPAM, donc les caisses d'assurance maladie. Donc, et les mutualités, ce n'est que pour des assurances complémentaires. La mutualité est une forme d'assurance, mais il y a d'autres formes. Si vous allez au Canada, vous n'avez pas de mutuelle comme ça. Donc, la mutualité, par exemple, vous parlez de la mutualité. Vous savez qu'en Belgique, aujourd'hui, moi je travaille dans une mutualité, le système a atteint son apogée. C'est un système qui fonctionne correctement.
Et là-bas, mais ça se passe comment? Comment ça fonctionne là-bas en Belgique?
Ça fonctionne très simple, c'est que tu travailles, il y a une partie de ton salaire qui est retirée, qui est envoyée à la sécurité sociale. La sécurité sociale a plusieurs branches. La santé, mais la mutualité s'occupe du remboursement de soins et des invalides. Les invalides, c'est-à-dire quand vous êtes malade et que vous ne savez pas travailler, la mutualité vous paye une allocation. Et ces mutualités-là s'occupent également à rembourser le soin de santé. Mais nous payons également des cotisations pour d'autres services complémentaires. Mais moi, j'aime pas trop comparer la Belgique en RDC. Pourquoi? Parce que les mutualités sont financées d'abord par les gens qui travaillent. C'est les gens et les employeurs et les indépendants. Au Congo, on a moins de 30% de la population
active qui travaille.
Et on a énormément de parties informelles. Donc, les mutualités peuvent être... Il y a des mutualités qui marchent. C'est par exemple la mutualité des enseignants. Il y a des mutualités à l'est du pays ou au Bas-Congo qui marchent. Mais quand on parle...
Au
Congo central. Donc, toutes ces mutualités-là fonctionnent également. Mais moi, j'aime pas trop qu'on se focalise, qu'on croie que l'assurance maladie passe par les mutuelles. Il y a d'autres moyens. On peut utiliser d'autres moyens. Par exemple, quand je vous parlais de la Belgique, c'est tout simplement pour vous dire que nous, aujourd'hui, on est focalisé sur la sensibilisation et la prévention des maladies. Pourquoi on les fait? On les fait tout simplement parce que aujourd'hui, il y a un déficit de la sécurité sociale et que il faut prévenir certaines maladies. On lance des campagnes, on éduque la population pour leur dire que, pour éviter certaines maladies. Parce que si la population est éduquée, les mutualités n'auront pas une charge énorme à payer, à rembourser.
Par exemple, avec la malaria, on dit souvent, il faut avoir, l'environnement doit être salubre, éviter.
Voilà. Dans les cadres de l'ONG, par exemple, que je préside, que je coordonne, on fait ces sensibilisations-là pour prévenir certaines maladies. Parce que je crois que c'est un élément important. Comme on va mobiliser les ressources, mais on n'aura pas les moyens pour couvrir tout le monde. Je crois qu'une grande partie...
Il faut beaucoup plus travailler sur la prévention
et la sensibilisation et l'éducation de nos populations. Ça permettra d'éviter certaines maladies et que les gens... qu'il n'y ait pas une grande affluence dans les hôpitaux. Je ne dis pas que la prévention va résoudre tous les problèmes, mais c'est aussi, il faut budgétiser un certain nombre de moyens par rapport à la prévention et à l'éducation. Ça permet d'éviter un certain nombre de maladies.
Comment assurer la couverture sanitaire universelle? On en parle dans Okapi Service aujourd'hui avec Patrick Njadi Ombombo, administrateur du Centre des recherches sur l'assurance maladie universelle. Vous avez des questions et préoccupations? Appelez au 081 890 63 94. Nous avons déjà en ligne Maître Olivier de Guémena, Glody Bouanganga nous appelle des Banonouville et Évariste Kabangou de Lubumbashi.
Oh Mario,
tout le monde sait.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Comment assurer la couverture sanitaire universelle? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Maître Olivier, vous êtes à Guémena, bonjour.
Et bonjour monsieur, je dis également bonjour à l'invité, ce Maître Olivier de Guadolité.
Vous êtes plutôt à Guadolité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Maître Olivier?
Effectivement, j'ai bel et bien suivi l'invité. Je pense que le projet est tellement salutaire, il faut encourager. Et également, je ne sais pas s'ils ont aussi prévu certaines dispositions, comment atteindre aussi le fond et le recoin du pays, puisque les gens qui sont à l'intérieur aussi, ils sont censés aussi en bénéficier. Puisque la majorité des projets, ça se limite qu'au niveau de capitale, au niveau de Kinshasa, voire certaines grandes provinces ou chefs-lieux de province, mais à l'intérieur, ça ne pénètre pas. Et c'est ça aussi une inquiétude pour nous. Alors, je ne sais pas, dans la disposition qu'ils ont essayé un peu de voir, quelles sont les grandes lignes pouvant permettre d'atteindre le stade de la couverture sanitaire universelle. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport à la mobilisation. Je ne sais pas, à la sensibilisation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu comme disposition de sensibilisation, puisque la majorité des projets, en tout cas, il y a toujours un problème de sensibilisation. Qu'est-ce qu'ils ont prévu comme méthode de sensibilisation du point de vue de l'intérieur du pays, c'est-à-dire du point de vue de la province, de l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils ont prévu comme méthode de sensibilisation pouvant permettre à la population d'avoir une certaine méthode de connaissance pour leur permettre de se préparer d'avoir une sorte de couverture sanitaire universelle? Voilà, en juste en quelques lignes, ma préoccupation.
Merci, Maître Olivier Degbadolité. Glody Bouanganga, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à ce moment.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. C'est bien qu'on peut avoir cette idée-là de créer des pareils projets, encore des pareilles visions. Mais quels sont l'avantage d'abord d'avoir accès à cette mutualité? Ça, c'est d'abord la première question. Et la deuxième question...
Non, il ne s'agit pas d'une mutualité. Nous parlons de la couverture sanitaire universelle.
La couverture sanitaire, oui, bien sûr. Je m'excuse pour ce désagrément. Comment faire pour avoir la couverture mutuelle? Ça, c'est d'abord le premier point. Et la troisième question, c'est que... Ce que vous allez faire constat en République démocratique du Congo, des projets comme ça se limitent seulement au niveau de Kinshasa. Mais dans différentes provinces ou encore dans l'intérieur du pays, vous allez se rendre compte que la paisible population congolaise passe vraiment des moments difficiles pour avoir une soin de santé mutuelle pour que leur santé puisse être améliorée. Donc il se passe vraiment des moments difficiles. Alors quelles sont les préventions qui peut prendre, enfin, d'aider aussi les peuples congolais qui se trouvent dans l'intérieur. Parce que le Congo ne veut pas dire seulement Kinshasa. Il y a aussi des territoires, des provinces, des secteurs.
D'accord. Merci, Glody. Merci, on a compris votre préoccupation. Évariste Kabangou, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur l'éditeur de la radio Capitale. Bonjour à tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la couverture sanitaire universelle?
Oui. J'aimerais demander d'abord à notre invité de pouvoir nous expliquer c'est quoi la couverture sanitaire. Et deux, qu'est-ce que le moyen que l'État a prévu en termes de couverture sanitaire? Parce que nous sommes dans un pays où les structures sanitaires de l'État ne sont pas partout, ou ne sont pas installées sur tous les coins du pays. Alors on nous parle de la couverture sanitaire. Quelles sont les méthodes ou les mécanismes prévus par l'État afin que ce projet puisse être élargi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Ma troisième préoccupation porte sur le point des cadres, sur les cadres budgétaires. En voyant le budget de l'exercice 2020, on nous parle de taux de 9,5 tels que pour la santé. Est-ce que ce budget pourrait-il nous permettre de réaliser ce projet ou ça va rester dans un cadre idéal? Voilà ma préoccupation.
Merci Évariste. Marcel Didier, vous êtes à Louisa, dans le Kasaï central. Bonjour.
Bonjour Monsieur Dodi. Bonjour également à Monsieur Patrick Andjadi Ombobo qui est votre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai à vous dire, je voudrais dire ceci, que la procédure, qu'est-ce que j'ai dit? L'initiative en soi, monsieur Dodi, elle est tellement bonne. Nous sommes vraiment experts en initiative en République démocratique du Congo, mais ce que nous pouvons demander, c'est l'applicabilité de ces initiatives, de sorte que cela ne puisse pas tomber dans les oubliettes de l'oubli. Mais je voudrais un peu passer par une petite anecdote. Récemment, dans mon territoire, J'ai assisté à des scènes, c'est-à-dire qu'il y a des organismes qui ont financé pour prendre la mère et son enfant en charge. Mais Monsieur Diony, ce que nous avons eu à déplorer, c'est que il y a eu un certain laxisme de la part des experts ou des agents, les corps sanitaires, qui n'a plus commencé à prendre en charge que les gens qui pouvaient avoir un peu de l'argent en main. C'est-à-dire que, à mon avis, vous allez voir que les experts de santé, plus il y a peut-être accès à tout le monde à la santé par rapport aux frais qui peuvent être minimes, mais la qualité des soins devient cette fois-là aussi au rabais. Voilà un peu la petite inquiétude. Mais j'ai quelques petites questions à poser à l'invité. L'invité pense-t-il procéder par rapport au civisme sanitaire de cette notion de l'accès de la couverture universelle, de la couverture sanitaire universelle? Ça, c'est la première question. Donc, comment il pense procéder? Mais quels sont les préalables pour une couverture sanitaire universelle, mais aussi surtout efficace, Monsieur Diody? Est-ce que la troisième question et la dernière? Quelle catégorie de la population peut avoir accès à cette couverture sanitaire universelle? Voici ma petite préoccupation, Monsieur Diody, et bon début de la semaine.
Merci, Marcel. Jérémy Mwamba de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Diody, et bonjour également à notre invité. Je pense que le sujet, il est pertinent, parce que vous savez que la santé, c'est ça la priorité, vraiment. Je pense que même dans le budget, il fallait toujours allouer une grande part pour ce qui concerne la santé. Oui. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je salue quand même les gestes, tout ce que le gouvernement est en train d'entreprendre en ce qui concerne la couverture universelle en rapport, bien sûr, avec la santé. C'est un geste à saluer à juste valeur. Mais nous avons des inquiétudes. Nous qui travaillons dans des entreprises, ou soit à gauche, à droite, vous allez vous rendre compte que quand vous vous alignez sur la liste, par exemple, des mutuelles de santé, vous allez voir que nous avons déjà changé par trois fois les hôpitaux. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que quand vous vous alignez comme étant partenaire avec un hôpital X, vous allez voir que vous donnez votre argent, vous contribuez, bien sûr, mensuellement.
Oui.
Mais vous vous rendez compte que une fois que l'argent est entre leurs mains,
oui,
mais quand vous venez pour bénéficier de ces soins, mais ils privilégient ceux-là qui viennent donner en main propre. Voilà. Et pourtant, on a donné l'argent. Il y a ceux-là qui ne souffrent pas, dont les familles et les enfants ne souffrent pas. Et toute une année passe comme ça, tout cet argent est gardé par eux. Mais malheureusement, on ne tient pas compte de tous ces gens-là. Vous allez voir qu'il y a même des cas de gravité, mais ils sont là passifs, pour ne pas agir. Moi, je pense que il fallait, bien sûr, que la politique soit vraiment, on puisse promouvoir cette politique-là, de prise en charge, même au niveau plus bas. On ne refuse pas, bien sûr, parce que nous avons d'abord ceux qui sont frappés par la vulnérabilité, tels que la mère, l'enfant, tout ça, mais hormis ça, il y a aussi des cas qui arrivent dans certains des gens qui sont dans les entreprises, dans les cas, par exemple, d'opérations graves, où ils demandent, par exemple, 1 000 $ ou 1 500.
Oui.
Mais il peut se faire que quand vous avez contribué, cet argent-là, dans le cadre social, peut aider votre collègue. Bien sûr, ça, on ne refuse pas. Mais là où les bas blessent, c'est que on nous considère que ceux-là qui
payent cash.
Et j'ai même mentionné, j'ai trouvé aussi un hôpital quelque part. Pour y accéder, c'est nouvellement créé. On vous demande de donner d'abord 250 $. Mais même une petite malaria au préalable, comme je ne sais pas garantie, ou je ne sais pas assurance, on demande 200 $. Mais après
d'accord.
Ça, même si les soins ne sont
Oui, alors, d'accord. Merci, alors, Jérémy. On a compris votre préoccupation. Monsieur Patrick, vous avez suivi les différentes interventions des auditeurs à travers le pays. J'ai retenu beaucoup, se pose la question, mais cette couverture, est-ce que nous qui sommes dans l'arrière-pays, est-ce qu'on sera également bénéficiaires de cette couverture sanitaire universelle? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je peux leur dire oui. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans la définition même de la couverture universelle, il y a une question importante. On parle de l'équité. L'équité, c'est vraiment... L'équité, on parle de l'équité. Mmh. L'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité, c'est vraiment prendre les gens qui sont à un niveau bas, les remonter au même niveau que les autres. C'est ça l'essentiel.
Donc permettre à chaque citoyen congolais
d'avoir
d'aller à l'hôpital et de bénéficier des soins.
Des soins de santé. Donc si on lance un chantier sur la couverture universelle, ça m'étonnerait qu'on puisse pas penser aux gens du Congo profond. Quand je parle du Congo profond, les gens qui vivent une situation difficile, on fait la couverture universelle pour réduire la pauvreté. Ces gens-là vivent dans la pauvreté, donc ils doivent être concernés. Mais j'aimerais rappeler une chose. Je ne représente pas les gouvernements. Je suis un expert indépendant qui fait de l'associatif et qui accompagne une action par rapport à la couverture universelle. Je peux ne pas être totalement d'accord avec ce que fait le gouvernement, mais moi, je soutiens l'initiative et je propose des solutions. Parce que je voudrais que ça soit un peu clair, parce que les différentes questions que les auditeurs ont posées, j'ai l'impression comme si j'ai représenté. Je n'ai aucun mandat politique et je suis un expert. J'ai participé, j'ai été invité par le gouvernement pour apporter mon expertise à une conférence. Donc, j'apporte mon expertise. Donc, par rapport à cette question-là, quand on pense à la couverture universelle, on pense aux plus pauvres, on pense aux démunis, on pense aux gens qui n'ont pas accès. C'est même la base de la couverture universelle. On ne parlerait pas de la couverture universelle si tout le monde a le moyen de se faire soigner. Oui. Donc ça, c'est une chose.
Alors, quelqu'un a posé la question de savoir quelles sont les étapes, les différentes étapes pour arriver à cette couverture universelle.
Les différentes étapes, comme je vous ai dit, on a fait un congrès, une conférence. Le congrès, c'était un état de lieu. Aujourd'hui, la réponse que je peux vous donner, il n'y a pas de formule magique. Ça, c'est au regard de tous les pays, on dit il n'y a pas de formule magique pour arriver à une couverture universelle. La couverture universelle, pour nos pays pauvres et qui disposent de peu de moyens, c'est un chemin, c'est-à-dire c'est un droit. On le fera par étapes. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui là où le gouvernement commencera. Ça, je suis les recommandations, ceux qui sont sortis de cette conférence-là, et qu'on le fera par étapes. On va cibler une catégorie de la population et on va aller progressivement. En fonction des expériences, des différentes expériences, on fera encore un état de lieu pour voir comment on va avancer. Il y a une chose que je dois dire. Pour le moment, la couverture universelle, la finalité, c'est arriver à une fusion. On appelle ça une fusion de mutualisation des risques. Le Congo est grand. On a des petites expériences. Moi, j'appelle ça des protections financières. Parce que si je dis, on a des petites expériences de couverture universelle, les gens vont être... On a des petites expériences de protection financière. C'est des différentes mutualités qui existent. On va accompagner déjà ces différentes mutualités. Par exemple, une des recommandations, c'était la mutualité des enseignants. Ça fonctionne plus ou moins bien. Pourquoi ne pas l'étendre pour tous les enseignants dans toutes les provinces? Il y a des expériences d'assurance maladie dans les lois là-bas, où il y a les mines. Mais est-ce qu'il faut se focaliser avec... Parce qu'il y a une richesse dans les lois. Là-bas, les mines permettent assez que les activités, les gens qui sont là, d'assurer les gens. Il y a une certaine couverture. Mais des choses comme ça, ce sont des choses qui se partent. On parle de la fragmentation, de la protection. L'idéal, c'est qu'on arrive à une fusion à la fin. C'est-à-dire qu'on puisse d'abord voter une loi obligatoire d'assurance pour tout le monde, et de fusionner ces différentes expériences. Moi, je suis là aujourd'hui, j'apporte mon expertise par rapport aux différentes expériences qui existent pour que ces expériences-là soient solidifiées. Pour que ces expériences-là soient vraiment solidifiées et qu'on puisse continuer. Parce qu'on est sur la route. Parler de la couverture universelle, que je viens de vous dire aujourd'hui, on va l'avoir maintenant, ça serait vraiment de la démagogie.
C'est utopique. Hein.
C'est pas utopique. Non. Le mot utopique est dangereux. L'avoir aujourd'hui, ça serait de la démagogie. On est sur les chemins.
On va y arriver. Ça prendra du temps.
Et il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que des solutions intelligentes. On regarde les autres pays qui l'ont fait, qui sont sur les chemins également de cette couverture-là. Il y a des innovations, il y a nos réalités, on arrivera à cette couverture.
Évariste Lubumbashi a posé la question de savoir, dans certains coins du pays, il n'y a pas des centres de santé, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien.
Oui.
Faut-il commencer par construire les hôpitaux dans ces régions-là?
Vous savez, Kachama, le chantier du système de santé, c'est tout. Si on peut le dire comme ça, il y a tout à refaire. Imagine, pour faire une couverture universelle, vous pouvez dire, il faut d'abord identifier les gens. Il faut d'abord commencer à dire qui est qui. Il faut identifier les médecins. Vous savez, aujourd'hui, les chiffres, j'ai regardé les chiffres des médecins officiels reconnus qui ont un numéro, on a plus ou moins juste 11 000 médecins. Donc, il faut pouvoir, il y a un travail dans tous les domaines. Mais on va pas s'arrêter aujourd'hui. On n'a pas assez de moyens pour commencer, je dirais, un chantier dispersé. Ce qu'il faut faire, il faut commencer avec les... accompagner d'abord ce qu'il y a. Si vous dites aujourd'hui, c'est que l'idéal aurait été quoi? Dans un rêve, comme on dit, on dirait, on met les moyens, on construit d'abord les hôpitaux dans tous les pays. On identifie les gens, on fait un recensement, on sait il y a combien de Congolais. Et ça, c'est l'idéal. Mais on n'a pas ces moyens-là. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de moyens qu'on ne doit rien faire. On a fait un choix, on a fait un engagement. Mmh. Sur les terrains, il y a des gens, des petites expériences. Et dans ces petites expériences-là, à arriver. Et puis, quand vous parlez de soins, je comprends la préoccupation. Il n'y a pas de zone de santé. Il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'eau potable. Mmh. Ce sont des recommandations qui ont été faites et qui ont été adressées au gouvernement. En disant, dans ces zones-là, il faut construire quelque chose. Il faut y penser pour ces zones-là où il n'y a pas de l'eau potable. Et pour qu'il y ait de l'eau potable. Mais ça, le gouvernement a pris un engagement. Moi, aujourd'hui, en tant qu'expert, on a fait des propositions. C'est une réalité. Moi, en tant qu'expert en assurance maladie, si on me dit qu'il là, il n'y a pas de l'eau potable et le gouvernement me dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux apporter comme élément?
Vous êtes bloqué.
Je suis bloqué. Mmh. Donc, je ne peux que dire au gouvernement que pour y arriver, il y a une des possibilités. Il faut penser à ça.
Mais alors, quelqu'un a posé la question, Marcel de Louisa. Il dit, dans certains, dans les hôpitaux, on ne prend en charge que ceux qui ont de l'argent. C'est, si vous venez, vous avez de moyens. À ce moment-là, on vous soigne, vous avez du cash.
Vous avez
mais
du cash.
Si vous n'avez rien, alors vous êtes négligé.
Vous êtes négligé. Ça, c'est une réalité. Réplisement, c'est la raison pour laquelle il faut que cette question-là de la couverture universelle soit intégrée. Vous parlez des questions d'argent dans les hôpitaux où il n'y a même pas de système. Moi, je vous dis, ces réalités-là existent même dans les gens, dans des systèmes, dans des pays où il y a des gratuités. Par exemple, il y a différents pays, ils ont lancé des systèmes de gratuité, de couverture universelle, mais en lançant la gratuité des soins. Mmh. Vous lancez, prenons un exemple, Kachama. Vous dites qu'à cet hôpital-là, les gens peuvent se soigner gratuitement. Et que, à un moment donné, vous ne mettez pas assez de moyens. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir du commerce. Il va y avoir des services qui vont commencer à être, commercialisés. Parce que si les médecins ne sont pas payés. Ça, ce sont les conséquences de la défaillance d'un système.
Vous avez vu, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de médecins ont leur propre cabinet.
Voilà, les médecins. Mais tout ça, pourquoi ils ont leur cabinet? Moi, j'ai regardé les chiffres des médecins. On a, je crois, 11 000 médecins. Mais il faut identifier également les médecins. Il y a un autre problème. Vous savez qu'on a des médecins fictifs. Vous parlez des problèmes. Il faut numériser ces données-là. Il faut numériser les médecins. Savoir quelles prestations le médecin a fait. Ils sont combien? Et il faut qu'on puisse avoir des tarifs forfaitaires. Tout ça, c'est un grand chantier. Il y a tout à faire. Mais cela ne doit pas nous bloquer. Ce sont des réalités de notre pays. On doit commencer. Je vous dis, les médecins, par exemple, le cas de la mutualité des policiers et des enseignants.
Les enseignants.
Ils contribuent. Ils ont une petite mutualité. Ils s'en font soigner. Il y a des gens qui ont résultat. Ce n'est pas parfait. Mais c'est déjà un début. Si on peut avoir comme ça, étendre ce genre de choses dans tous les pays, on pourra améliorer quelque chose. Si l'État, aujourd'hui, on se limite à dire l'État n'a pas de moyens, le système est délabré, ça c'est être négatif. Il faut qu'on regarde. Moi, c'est pourquoi j'ai commencé à dire la couverture universelle. Moi, je pense qu'on parle de la protection financière et de schéma vers la couverture universelle.
Bien, on va accueillir Malonga de Bandonville. Bonjour Malonga.
Bonjour Jody et bonjour à notre invité qui nous explique très très bien notre...
Quelle est votre préoccupation?
Bon, ma préoccupation est qu'en entendant seulement notre sujet, moi je vois très loin. Je vois qu'il y a une organisation internationale, l'OMS, oui, qui doit se charger de cette couverture universelle de la santé. Mais ici nous voyons, vous voyez notre pays d'abord en jeudi et notre invité et tous ceux qui nous suivent, nous vivons vraiment au rythme des grèves des médecins. Or, de nous-mêmes la population, nous ne pouvons pas, on ne peut pas concrétiser cette couverture. Ce sont les médecins, les infirmiers et les personnes vraiment appropriées à la santé qui doivent concrétiser ça. Mais ceux qui doivent concrétiser ça, ils sont souvent vraiment plaintifs. Comment est-ce que nous allons bénéficier de ça, la population, les gens du village, des fermes, tout ça là-bas, ils sont dans des difficultés sanitaires. C'est la raison pour laquelle je précise d'abord les propos de notre invité, que c'est l'État qui doit s'en charger, encadrer bien bien les médecins. Mais ma question principale était qu'ils doivent montrer vraiment et afficher cette couverture universelle, parce que tout le monde est inclus. Hein? Or, les médecins et les hommes de la santé sont souvent vraiment insatisfaits. Ça va rester seulement en tant que l'un et dans les paroles. Hein? C'est ça que je dis vraiment. Je regrette.
Merci, Malonga de Bandundouville. Alors, donc, revenons d'abord à la question de Marcel de Louisa qui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un système de santé, des soins de santé, un système de santé efficace, permettre aux gens d'avoir accès à des soins de qualité.
Le soin de qualité, je vous dis, l'assurance maladie, qui est la couverture universelle, est une des pistes de solution. Il y a la formation de médecins, on parle de la couverture universelle, parce que la couverture universelle a plusieurs branches et plusieurs obligations qu'on doit tenir en compte. C'est-à-dire, la formation de médecins doit être également intégrée. Identification de médecins, la formation, c'est pourquoi je vous ai parlé de la numérisation. Il faut qu'on arrive à numériser les données. Oui. Savoir qui est médecin, qui ne l'est pas. Vous savez aujourd'hui, Kachama, au niveau du budget de la santé, 60% du budget de la santé va dans les ressources humaines. Les ressources humaines. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on peut identifier tous les médecins? Il y a des médecins qui sont dans des pays étrangers, mais qui ont encore leur numéro, qui n'existent pas.
Et qui sont membres de l'ordre. Il y a l'ordre des médecins qui peut faciliter tout ça.
Être membre de l'ordre du médecin, c'est autre chose. Et être un médecin qui pratique, qui suit des formations, qui est qualifié, c'est autrement. Les médecins doivent être identifiés, qu'on sache qu'il est médecin, qu'il travaille où, et qu'il fait quoi avec les patients, et qu'il est formé également. Il suit une formation. Ça, c'est une possibilité. Ça fait partie du grand chantier de la couverture. Numériser les médecins, numériser les actes, numériser
voter des lois.
C'est le chantier. C'est parce qu'en sortant de cette conférence-là, ce n'est pas dit que, j'ai commencé par dire, on a la solution magique. Même l'OMS, il a commencé par dire l'OMS. L'OMS, c'est la santé, c'est d'abord la responsabilité de l'État. L'OMS est là pour accompagner l'État, pour que l'État puisse mettre en œuvre un meilleur système de santé. Ce n'est pas l'OMS qui va venir mettre pour vous un système de santé. L'OMS, par exemple, est répertorié sur son site les différentes expériences de santé de d'autres pays. Et il les partage. Donc, nous pouvons les
chercher. Notre système de santé aujourd'hui est encore défaillant.
Notre système de santé aujourd'hui, l'organisation de notre système de santé. Vous savez qu'à la sortie de la colonisation, on avait un meilleur système de santé au niveau de l'organisation et au niveau. Mais il est défaillant juste par faute de moyens. Donc aujourd'hui, c'est reconstruire. Pensez même à la couverture universelle, parce que dans la couverture universelle, on vise les soins de qualité. Et on vise couvrir tout le monde. C'est les grands chantiers du système de santé. Donc, pour arriver à ça, pour avoir les soins de qualité, donc, les médecins doivent être bien formés. Mais par rapport, j'aimerais revenir surtout à ce que je perde ça à l'esprit. Il parlait c'est la population, penser à la population. Comme si la population était marginalisée par rapport à ça. C'est d'abord une histoire de médecins. Ce n'est pas une histoire de médecins. C'est une fusion tripartite. C'est-à-dire le monde médical, le gouvernement et la population. Imagine aujourd'hui que on met un système en place et que la population n'est pas sensibilisée parce que ça sera une assurance maladie et que on commence à faire des magouilles sur ces systèmes-là si la population ne prend pas conscience du budget mis pour les aider. Si la population n'a pas conscience, la population peut également détruire ces systèmes-là. Donc, la population doit être impliquée dès le départ, qui voit exactement les sacrifices que le gouvernement pourra faire ou les enjeux de cette couverture-là. Il doit être impliqué dès le départ. C'est une question qui concerne tout le monde. L'offre de soins aujourd'hui en RDC n'est pas suffisante. Kachama, si vous êtes malade aujourd'hui, que vous soyez riche ou pauvre, vous faites une grande crise aujourd'hui. Vous risquez de mourir parce que l'offre de santé n'est pas suffisante. La couverture universelle va permettre d'améliorer.
Aujourd'hui, beaucoup de Congolais, quand ils tombent malades, ils préfèrent aller en Afrique du Sud ou en Inde.
Même pour aller en Afrique du Sud, il faut une stabilisation de soins. C'est pourquoi je dis que ça concerne tout le monde. Donc, on doit tous mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse avoir un système de santé qui permet au moins de nous stabiliser. Même pour avant d'aller à l'étranger, on a besoin d'une stabilisation de soins.
Comment assurer la couverture sanitaire universelle? On en parle dans Okapi Service aujourd'hui avec Patrick Njadi Ombombo, administrateur du Centre des recherches sur l'assurance maladie universelle. Albert Kotolo, vous êtes en Mbandaka. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Albert?
Bon, je voudrais juste contribuer. J'espère que la couverture universelle des ministères de santé est pris à notre prix pour soutenir les agents qui travaillent dans les différentes sociétés, dans les différentes entreprises. Mais pour ceux qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'on va assurer leur santé? J'espère que ce territoire de santé est créé pour soutenir notre pays. Notre pays, cela veut dire que notre pays est compétent à gérer ou à mieux protéger la population congolaise à la santé. C'est ce qui crée tous ces problèmes-là.
Bien, merci, Monsieur Patrick Djadi.
Oui, j'ai suivi la question.
Seulement pour ceux qui travaillent, qui sont dans les entreprises?
Oui, ceux qui travaillent, d'ailleurs, c'est plus simple. Vous savez, ceux qui travaillent ont déjà une protection financière. Parce que le Code du travail congolais dit à son article 178 que tout employeur doit prendre en charge le soin de santé de ses employés et de leurs membres de famille. En fait, quand on parle de couverture universelle, et c'est pourquoi moi je fais de la sensibilisation, c'est j'aimerais que les gens évitent de penser directement aux mutuelles. Les mutuelles n'est qu'une forme de mettre en place une protection financière. Si votre employeur aujourd'hui applique cette législation et vous dit, par exemple, monsieur, vous devez, parce que vous travaillez pour moi, quand quand vous êtes malade, allez vous faire soigner à tel cabinet. C'est déjà une protection financière. C'est déjà une assurance. Mmh. C'est une protection parce que votre employeur paye pour vous protéger financièrement contre les risques de santé. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs façons de le faire. Pensez directement aux mutualités. Et les mutualités, c'est une forme de pouvoir exercer cette protection financière. S'il existe une mutualité comme d'enseignants, par exemple, où les gens contribuent un peu et puis il y a 50% qui est versé par l'État, c'est une forme. Et que la partie informelle, je comprends. Ça, c'est vraiment la grande difficulté et le grand chantier qui sera de la couverture.
Pour les citoyens congolais qui ne travaillent pas.
Qui ne travaillent pas. Oui. Et qui, on ne sait pas qui fait quoi. Vous avez
c'est
les indigents.
C'est des bruits, comme on le dit.
Comme on se dit. Pouvoir les identifier. Le projet, c'est que c'est pouvoir, bon, si je regarde les autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'intégrer petit à petit toutes les personnes chaque année. Avec un pourcentage, d'essayer d'identifier les gens. Ce sont des mécanismes qui doivent être mis en place. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui a un petit ligablo, un petit magasin, tu sais encore l'identifier. Mais la dame qui vend du pain au coin de la rue, tu sais comment tu peux l'identifier que il a un peu de revenus et qu'il peut contribuer pour une assurance maladie, pour une protection financière. C'est tout.
Par exemple, le gouvernement a dit la priorité sera donnée à la prise en charge de la mère et de l'enfant, la lutte contre les maladies infectieuses et l'éradication de la malnutrition. Non. Parlons par exemple de la malnutrition. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, surtout dans les Kassai, qui souffrent de la malnutrition. Alors s'il faut assurer la couverture universelle pour les enfants par exemple, comment procéder?
Comment procéder? La première des choses, je disais, c'est l'identification des enfants. C'est-à-dire, moi, j'avais proposé quelque chose. Moi, je me suis dit, vous savez, la CENI, par exemple, avait 75 millions bureaux de vote, étaient répartis sur le territoire. Moi, j'avais proposé quelque chose de simple. Cette idée-là m'est venue de ce qui se passe en Belgique. On appelle ça des ONE. J'ai dit, si aujourd'hui, on fait des permanences, on a besoin d'un médecin et d'une infirmière. Juste un médecin et une infirmière au sein des écoles, pour faire des consultations pour les enfants. Des enfants, les mères et les enfants après la naissance, qui voient les enfants tous les week-ends. En faisant des permanences, j'ai même déjà une idée budgétisée, le nombre de médecins, parce qu'il faut juste avoir un laptop, une infirmière, pour faire ces consultations-là.
Et si dans les écoles
dans les écoles, assurer une permanence. Mmh. On a 75 000 de bureaux de CENI. Pour ça, il ne faut pas avoir un hôpital. Il faut pas avoir... On peut le faire sur toute l'étendue du pays. Imagine Kachama, aujourd'hui, on organise une permanence financée par l'État pour les nouveaux-nés dans une école ici. Quelle est l'école qui est la plus proche des chez-nous?
Bon, à côté ici, bon, je n'en vois pas trop.
Au collège Boboto, ici.
Voilà.
Les matins. Tous les enfants, les mères, peuvent aller les matins, aujourd'hui, aller voir un médecin les samedis matin. Ça coûtera combien? Il faut un médecin et une infirmière pour les consultations prénatales. On va prévenir énormément de maladies. Ce sont des professions parce que...
Mais dans les villages où il y a souvent des problèmes, où il n'y a pas de centre de santé,
c'est
tout
ça...
C'est
pourquoi je vous ai parlé...
Pour atteindre les centres de santé, il faut marcher, il faut parcourir des distances.
C'est pourquoi je vous ai parlé des bureaux de vote. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, c'est une possibilité. Les gens sont partis voter.
Souvent dans les écoles.
Donc, on peut faire une permanence pour des consultations une permanence parce que c'était des bureaux où la CENI
ou dans les églises aussi
ou dans les églises où la CENI devait installer des machines à voter. Donc ces locaux là peuvent être utilisés pour juste des permanences pour des consultations. C'était une des solutions. J'en ai plusieurs, mais c'était une des solutions que j'avais proposées.
Assurer la couverture sanitaire universelle, il y a aussi un aspect, vous l'avez dit au début de cette émission, la prévention, prévenir des maladies, la malaria ou d'autres maladies qui atteignent souvent la population. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau du CAMU, par exemple, dans le cadre du volet prévention?
Au volet prévention, c'est vraiment sensibiliser, faire des campagnes de sensibilisation. La dernière campagne de sensibilisation, c'était par rapport aux consultations prénatales et postnatales. C'était rappelé aux gens. Moi, je viens d'un quartier où je me suis rendu compte que les gens qui ont mon âge sont déjà des grands-pères ou des grandes-mères.
Vous venez de la commune de Linguala.
Donc, les gens qui ont mon âge sont déjà des grands-mères ou des grands-pères. Je me suis dit, on peut faire quelque chose. On parle de couverture universelle, les gens me parlent. Ce que vous faites là, c'est quand est-ce qu'on aura ces gratuités? Je dis, mais vous avez également une part des responsabilités en tant que, pour être en bonne santé. Ce n'est pas le gouvernement qui a une responsabilité, mais en tant qu'humain, on nous a donné le souffle de vie, on est obligé quand même de vivre, de garder notre corps en bonne santé. Il faut prévenir certaines maladies. C'est pourquoi je parlais des préventions et des sensibilisations. C'est éduquer la population. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Il y a des campagnes d'assistance gratuites ici en RDC et que les gens ne sont pas au courant. C'est rappeler aux enfants. Parce que vous savez, les enfants, les nouveau-nés sont souvent, s'ils ne sont pas très, très, très bien suivis, ils sont souvent malades. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la population congolaise, elle est jeune. Elle est jeune, le pourcentage est énorme. Le pourcentage, je crois, c'est 46% de la population congolaise et vraiment, c'est une population jeune. Donc, on doit se focaliser sur la sensibilisation et l'éducation de la population. Comme on n'aura pas assez de moyens, il faut qu'on éduque nos populations et qu'ils sachent pour éviter certaines maladies. Ce n'est pas la solution magique, mais c'est la solution qui permet de prévenir certaines maladies.
Par exemple, l'hygiène
des vies. Oui. Vous voyez, on a lancé, par exemple, Kinshasa, Kinbopeto.
Oui.
Bon, moi, je ne suis pas régulièrement ici, donc je ne peux pas juger de ça. Mais ce sont des idées. Je ne peux pas juger aujourd'hui si ça marche ou pas, mais je peux dire ce sont des idées. C'est-à-dire, si on vit dans des conditions salubres, on évite
beaucoup de maladies.
On évite beaucoup de maladies. C'est déjà des choses à faire. Et beaucoup de maladies aujourd'hui, des épidémies qui arrivent en RDC, est liées aux conditions d'hygiène, aux conditions d'insalubrité. Donc, si on peut éviter déjà ça, c'est éviter aussi un coût à l'État, un coût réel à l'État. Parce que la santé a un coût. La santé a un coût, l'État devra payer. Et moi, je rappelle, bien qu'on éduque la population, moi, peut-être la population me trouve assez dure par rapport à ça. Moi, je suis de ceux qui croient que la population a également une part des responsabilités. Même celui qui gagne 1000 francs, moi, je défends l'idée qu'il doit payer même 20 francs pour ce soin de santé. Pour qu'il se rende compte que ça, la santé a un coût. Parce que si on donne à quelqu'un quelque chose de gratuit et qu'il ne se rend pas compte que cette chose-là exige beaucoup d'argent, la personne ne prendra pas conscience de sa responsabilité, de sa part de la responsabilité.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la couverture sanitaire universelle. Le gouvernement congolais a lancé le vendredi dernier un plan de couverture sanitaire universelle, mais le grand problème, c'est le moyen. Le problème des moyens, le gouvernement n'a pas encore assez de moyens. Il faut mobiliser ces moyens-là. Alors, donc, on peut dire que ça prendra quand même du temps. Il y a la volonté, mais les moyens font défaut.
Les moyens, il faudra les lancer. Donc, de toute façon, on ne va pas attendre le jour où on aura le moyen. Kachama, si on veut avoir le moyen, l'OMS prévoit pour couvrir une personne $30 à $35, les minimums, hein, $30 à $35 par an, par personne. On est à plus de 3 milliards. On n'a pas 3 milliards. Comme on n'a pas 3 milliards, c'est pas parce qu'on n'a pas 3 milliards qu'on va pas faire une couverture universelle. Il faut qu'on commence d'abord.
Et avec puis, le peu qu'on a.
Avec le peu qu'on a, oui. Et qu'on lance, on fasse quelque chose pour les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette couverture-là. Et puis, on va améliorer. Et si les systèmes fonctionnent de plus en plus, on pourra... Ça va mobiliser plus les gens. Les gens prendront conscience, verront qu'il y a un résultat. On pourra avoir d'autres partenaires qui pourront effectivement venir soutenir ces projets-là. Bien que je ne suis pas de ceux qui défendent l'idée d'un financement totalement ou des partenaires étrangers. Parce que moi, j'estime que le financement des partenaires étrangers peut nous aider à un moment, mais il faut qu'on soit à la base, le financement soit local. Parce que les financements étrangers, moi, j'estime que ce sont des financements instable et des fois non durable. Alors que si on arrive à créer notre... On n'aura pas des formules magiques, mais si on arrive à arriver à avoir notre formule de financement, que moi j'appelle une formule de financement intelligente, qui nous permettra de les lancer et de couvrir déjà ce qu'on pourra couvrir, ça sera une bonne chose et on pourra l'améliorer petit à petit. C'est, moi je dis ceci, on est sur la route d'une couverture universelle. La route, elle est longue, il y aura beaucoup d'embûches, on aura énormément de problèmes, mais c'est pas pour autant que on doit, il faut qu'il y ait la résilience, il faut qu'il y ait de la volonté politique, il faut qu'on insiste, il faut, parce que je vais vous prendre l'exemple du Gabon par exemple, c'est un petit pays. Ou du Ghana. Je vais prendre peut-être le Ghana.
Le Ghana. Ils ont déjà une couverture. Ils ont assuré.
Par exemple, je voulais parler du Gabon tout simplement, bien que c'est un petit pays. C'est juste la population elle est moins que la ville de Kinshasa. Oui. Mais c'est juste pas en termes de population, mais en termes de ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par exemple à taxer les télécommunications pour financer leur couverture universelle. Et puis à un moment donné, il y a eu la crise financière. Après la crise financière, les sociétés de télécommunications sont tombées en faillite. Donc ils ont dû repenser de nouveau à cette couverture alors qu'ils avaient déjà lancé pour commencer maintenant à faire une taxe sur la vente. Donc pour dire
donc
que
ils ont instauré des taxes, il y a toujours des moyens, mais il y a une façon de mobiliser
ils avaient
les fonds.
Lancé. Au moment où ils avaient lancé, c'était parfait parce qu'ils avaient quatre sociétés de télécommunications qui ont accepté d'investir dans cette couverture-là. Et puis, après la crise financière, à un moment donné, deux sociétés de télécoms sont tombées en faillite. À un moment donné, il fallait de nouveau penser où aller trouver l'argent. Je peux prendre l'exemple du Ghana. Du Ghana, par exemple. Le Ghana a instauré une taxe sur les ventes. Donc, à chaque fois qu'il y a une vente, une TVA.
Il y a une taxe qui est réservée à la santé.
À la santé. Oui. Mais à un moment donné, quand il y a baisse de l'économie, il y a moins de ventes. Vous faites quoi?
Il faut trouver d'autres mécanismes.
Nous, on peut aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui pensent aux mines. Aux mines. Mais les mines dépendent du marché et à un moment donné. C'est juste, quand je prends ces exemples-là, c'est pour juste dire que il n'y a pas de solution magique. C'est en fonction du contexte et des réalités. On peut trouver aujourd'hui la formule, les lancer et puis faire face à des difficultés financières. Il faudra repenser de nouveau. Donc, à chaque fois, on doit être à même de trouver des formules magiques pour pouvoir couvrir. C'est pourquoi je parle d'un chemin. Il n'aura pas la couverture. Je peux prendre de nouveau l'exemple de la Belgique. La Belgique, aujourd'hui, c'était le pays parfait en termes de couverture. Mais aujourd'hui, il y a un déficit de la sécurité sociale. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, même tous ces systèmes-là qui ont atteint leur apogée, qui ont fonctionné, ont atteint leur apogée et il y a vieillissement. Ils ont protégé les gens se sont soignés correctement.
Alors pour terminer, on retient qu'il faut d'abord commencer quelque part. On a lancé le plan de couverture sanitaire universelle. Il faut commencer quelque part avec le peu de moyens dont on dispose. Bien, merci Patrick Njadi Ombombo. Je rappelle que vous êtes administrateur du Centre des recherches sur l'assurance maladie universelle CRAMU Ansig. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.